Bienvenue pour la deuxième partie de l'atelier. J'espère que vous avez passé une belle pause de midi, qui était un petit peu plus courte, mais c'est plus vrai parce que nous avons fait. Je souhaite la bienvenue aussi au professeur Kurt Ostetmann, qui va donc animer cette deuxième partie. Professeur Ostetmann, il a un lien un petit peu particulier aussi avec le jardin, parce que c'est ici, dans une des chambres qui est au-dessus, qu'il a écrit sa thèse de doctorat sur les gentianes. Donc, ça fait longtemps qu'il connaît bien le jardin. Aujourd'hui, il est membre du conseil de fondation aussi du jardin, et il habite à Champé, à quelques mètres d'ici, où il a un très beau jardin rempli de plantes médicinales qui fait concurrence au nôtre. Sur le niveau plantes médicinales, il en a plus que et il est donc professeur honoraire de pharmacologie,
cognosie,
voilà. Et puis bah, il va vous parler de plusieurs plantes, en particulier de l'arnica, de l'aquilée et du millepertuis. On va préparer après, mais après il en a tout un tas, et sûrement ce que j'ai vu de l'aronia, qui est sa plante préférée. Donc il y a une partie justement qui va être ici avec le PowerPoint. Donc, j'ai dit à certains, vous avez juste mis les recettes, et puis tout ça, vous pouvez écrire des choses, mais si vous êtes intéressé par le PowerPoint en entier, vous pouvez toujours me demander de le transmettre ou de l'imprimer. Voilà, et puis après il ira aussi vous montrer quelques plantes aux alentours du chalet avant qu'on passe à la préparation. Voilà, enfin, alors bonne conférence.
Merci. Bienvenue à ce cours que je vais faire, une petite introduction. Effectivement, je viens dans ce jardin il y a exactement 52 ans la première fois, quand je rédigeais ma thèse de doctorat à l'Université de Neuchâtel, qui était co-responsable du jardin alpin. Après, on trouvait que ce n'était pas intéressant de donner 65 000 francs par année à ce jardin. Et puis maintenant, c'est le canton du Valais qui a repris, et la commune d'Orcières. Et maintenant, le jardin est beaucoup plus riche qu'avant, parce qu'avant, c'était Neuchâtel et Genève qui avaient relativement peu d'intérêt. C'est comme ça que j'ai connu cet endroit magnifique. Et ma femme aussi, j'ai connu à Champé, dans une excursion botanique. Et puis, je me suis dit, le jour où j'ai de l'argent, j'achète un petit chalet. Il y a 20 ans, j'ai construit un grand chalet qui touche pratiquement le jardin alpin derrière. Comme ça, j'ai juste à traverser la route, mais enfin, je ne peux pas entrer, il y a une barrière, comme ça, je vais faire le tour quand même, enfin, pour venir ici. Alors, moi, j'ai enseigné pendant 30 ans les plantes médicinales aux étudiants en pharmacie de l'Uni de Lausanne, les 5 dernières années à Genève, contre ma volonté. Parce qu'ils ont décidé, les politiciens, de déplacer l'école de pharmacie de Lausanne à Genève. J'étais complètement opposé, j'ai même lancé un référendum, et le peuple vaudois a dû voter, puis j'ai perdu cette votation, mais je ne me suis jamais préoccupé de salaire, et mon salaire a augmenté de 2000 francs par mois, en passant de l'Uni de Lausanne à celle de Genève, et puis les 5 ans que j'ai fait à Genève, ils m'ont donné, les Genevois, une retraite de prof d'Uni de Genève. Donc j'ai finalement fait une assez bonne affaire. Voilà. Et je continue d'enseigner énormément. Il y a 10 jours, j'étais au Maroc à une conférence, mais en fait, un prof à la retraite, à 65 ans, il n'a plus le droit de donner des cours obligatoires aux étudiants. Il peut donner de la formation continue, des choses comme ça, mais n'empêche que j'ai été nommé au CHUV, il n'y a pas longtemps, pour donner des cours aux étudiants en médecine de 3e année. On a introduit à Lausanne, à la faculté de médecine, un cours médecine complémentaire. Il y a l'hypnose même, l'hypnose, l'homéopathie, l'acupuncture, enfin. Et moi, je donne la phytothérapie dans le cadre de ce cours. J'ai aussi été nommé pour donner les cours à Haute École de la Santé de Lausanne, aux soins, la filière soins infirmiers. Donc, je continue d'enseigner. Bon, j'ai des conférences pratiquement une par semaine, grosso modo. Continue, mais j'ai arrêté la radio suisse romande où j'ai fait 252 passages en 12 ans, 252 interviews. Et puis quand Christine Magro a arrêté, j'ai décidé d'arrêter aussi. J'ai mon contrat qui va encore jusqu'à fin juin, mais je ne participe plus parce que ça me fatigue trop d'aller. À un moment donné, il faut arrêter quand même. Et enfin, dans quelques mois, j'ai 80, puis je continue de voyager, de voyager, de voyager, en Chine, enfin partout, enfin dans le monde, je ne veux pas parler de ma vie. Mais aujourd'hui, je vais parler de millepertuis. Le seul problème qu'on a, on n'a pas eu quel problème cette année, j'aurais demandé au jardin de me procurer tout plein de millepertuis pour faire l'huile de millepertuis. Ils ont pas enchanté, évidemment, il n'est pas en fleurs, il y a du retard. Ils ont trouvé relativement peu de millepertuis à Fuilly, en bas, en plaine. Alors on a pas énormément, ce qui me dérange un peu. Et puis ensuite, bon, il y a l'achier millefeuille, il n'y a pas de problème, il y a partout enchanté en fleurs. Et puis l'arnica, il n'y a pas de problème non plus, mais le problème qu'il y a quand même, moi je préfère travailler avec l'arnica de fleurs fraîches. Et ce matin, j'ai trouvé des fleurs fraîches, enfin, quelques-unes, ce qui m'a valu, il y a 2-3 ans en arrière, une insulte dans cette salle. Moi, j'avais ramassé 2 sacs pleins d'arnica, et une dame m'a dit, je refuse de travailler avec cette plante, vous avez pris une plante protégée. Ça veut dire plante protégée. Alors, qu'en est-il de la protection des plantes en Suisse? Elle est cantonale. Et je fais une diapositive, l'arnica dans le canton du Valais n'est pas une plante protégée. Et la dame qui m'a insulté, elle m'a vraiment insulté, hein, elle était vaudoise. Moi, j'ai rien contre les vaudoises. Mais elle avait raison, dans le canton de Vaud, l'arnica est protégée. Protection totale. Et dans le canton de Fribourg, canton de Berne, ça il faut savoir encore, protection partielle. Cela signifie que dans le canton de Berne, dans les Alpes bernoises ou des préalpes fribourgeuses, il y a de l'arnica tout là. Vous avez le droit de prendre 10 fleurs par jour pour mettre dans un bouquet. Ça, c'est la protection partielle. Alors, c'est ça qu'il faut savoir. Alors, si vous regardez d'autres plantes, par exemple l'Edelweiss, mais elle est protégée dans tous les cantons suisses, sauf dans le canton du Riz. Vous pouvez aller le ramasser. Ouais. Donc, pour chaque plante, il faut savoir. La gentiane jaune, dans le canton du Valais, elle n'est pas protégée. Vous avez même le droit, quand c'est un terrain public, communal, cantonal, d'aller creuser la racine de gentiane pour faire, enfin, des liqueurs artisanales ou des choses comme ça. Dans le canton du Jura, il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup. Protection totale. Donc, pour chaque plante, il faut bien savoir où vous en êtes. Et ensuite, toujours dans la même, quand cette dame vaudoise m'a insulté, une dame, une genevoise, qui me dit, qu'en est-il du statut de l'arnica dans le canton de Genève? Bah, quelle est la réponse à donner? Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce que la seule colline genevoise, elle est en France, qui est juste derrière, enfin, vous voyez. Alors, là, ça, c'est une chose que j'aimerais juste mettre au point tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai une diapositive qui va résumer la situation. Par contre, le genépi, que les Valais ont ramassé partout, il est protégé en Valais aussi, il est protégé dans toute la Suisse. Donc, il faut regarder, quand vous... Dans le canton à l'autre, tu peux... Le rhododendron, par exemple, dans certains cantons, canton de Berne, protection totale, canton du Valais, il n'est pas protégé. Vous avez le cours du Saint-Grand pour faire des bouquets. Une fois, j'ai ramassé un bouquet de rhododendron, une voiture s'est arrêtée, elle m'a insulté au bord de la route, enfin, comme ça. Donc, il faut connaître les lois. Bien. Ceci étant dit, pour l'arnica, on essaiera de se débrouiller avec ça. Et puis les autres, enfin, ils devront préparer l'arnica avec la plante séchée. Les études montrent, à l'heure actuelle, que l'arnica frais est... a plus de propriétés utiles, raison pour laquelle beaucoup de firmes pharmaceutiques prennent l'arnica frais pour faire des médicaments. Mais dans la pharmacopée, c'est toujours l'arnica séchée qu'on prend pour faire la teinture d'arnica. Donc moi je fais jamais avec la plante séchée, je prends que la plante fraîche. Et c'est beaucoup plus facile et puis c'est beaucoup plus efficace aussi. Bien. On va commencer maintenant, on va faire un petit exposé. Vous pouvez m'interrompre, bien sûr, n'importe. Ah oui, une dernière chose, j'ai mis mon adresse e-mail, elle est là. Alors, si vous avez envie d'avoir le PowerPoint, quand j'étais jeune prof, je ne donnais rien. Ma vieux prof, il donne tout. Vous pouvez utiliser mon PowerPoint pour faire des exposés. Vous m'envoyez simplement ici. Alors, comme ça, je peux cliquer puis je vous l'envoie sans commentaire. Ça, c'est mon adresse. Kurt Ostetan, @vtx. .ch. Sur le PowerPoint, vous l'aurez demain déjà. Je réponds directement, enfin, ce soir ou demain. Comme ça, vous avez le PowerPoint, vous pouvez l'utiliser. Vous n'avez pas besoin de me citer, vous pouvez tout utiliser, enfin, les diapos que j'ai faites. Ça, c'est juste une petite précision au début. Maintenant, on va passer, pardon, tout de suite. Ça, c'est le, comme tout le monde le connaît, ça, c'est le millepertuis. Millepertuis, famille des Hypericum perforatum. Hypericum, alors là, Là, on l'appelle aussi l'herbe de la Saint-Jean, parce qu'il fleurit à la Saint-Jean, qui n'est pas le 21 juin, comme certains le pensent, c'est le 24 juin, la Saint-Jean. En fait, la Saint-Jean, c'est le 24 juin. Et puis, les fleurs de millepertuis sont jaunes, mais si vous les frottez comme ça, elles deviennent rougeâtres. Et l'huile de millepertuis que vous allez préparer, en faisant pas beaucoup, elle devient rouge. Et quand ça devient rouge, l'huile est bonne, parce qu'il y a un pigment rouge, qui est masqué par des flavonoïdes qui sont jaunes. C'est pour ça que l'huile de millepertuis, enfin, c'est un produit qui est très très lipophile, c'est pour ça qu'on utilise l'huile. C'est mieux de prendre l'huile pour millepertuis que de prendre l'alcool pour extraire les principes actifs. Mais ça dépend pour chaque plante, enfin, on ne peut pas donner une règle générale. Et puis le mot hypericum vient du grec qui veut dire au-dessus de l'huile, hypericum. Les Grecs mettaient à l'entrée des maisons, ils avaient des statuettes, ils mettaient toujours le millepertuis au-dessus parce que l'odeur du millepertuis, on disait que ça chasse les démons. Le nom latin qu'on donnait aussi à la plante, c'est fuga demonium parce que ça chasse les démons. Voilà. Il y a tout plein d'histoires, enfin, sur le millepertuis. Et puis, millepertuis, ça vient du vieux français qui veut dire percer, trou. Il y a des trous, enfin, des trous entre guillemets, dans les feuilles. On va voir que ce n'est pas des vrais trous, mais ça donne l'illusion d'avoir des trous. Voilà, disons, un peu l'étymologie de la plante. Maintenant, ici, on le connaît depuis longtemps. Il est cité par Pline l'Ancien, par Dioscoride. Dioscoride dit que ça, c'est bien pour traiter les brûlures, surtout sur les champs de bataille, les plaies, les blessures, on utilise l'huile de millepertuis. Et puis, Paracelse, c'est le premier qui dit que c'est bon pour lutter contre la mélancolie grave en usage interne. Vous savez que le millepertuis est l'antidépresseur végétal par excellence. Donc, vous voyez, il y a une longue histoire déjà. Paracelse, mélancolie grave. Mélancolie grave, le mot dépression est un mot nouveau. On parlait de mélancolie et pas de dépression. Voilà, encore ici une fois une fleur. On va passer directement maintenant à la feuille. Là, je fais une photo, un gros plan sur les feuilles. Et vous voyez les feuilles, quand vous regardez les feuilles, donc, contre la lumière, par exemple le soleil, pas trop longtemps, vous avez ceci, vous avez ces petits trous. Ce ne sont pas des trous. Ce ne sont pas des trous. Ce sont simplement des cellules qui contiennent une huile essentielle. Cela, ça donne l'illusion d'un trou parce que là, la chlorophylle n'a pas pu se former. Il n'y a pas de trou dans le millepertuis. C'est une illusion d'optique. Ça donne une illusion d'optique. Vous voyez, c'est pour ça que je me suis amusé une fois, il y a longtemps déjà, à faire cette diapositive que je montre toujours. Maintenant, pour faire le... Il y a beaucoup d'espèces de millepertuis en Suisse, il y en a plus qu'une dizaine. À Champagne, on en a une. Je crois que je ne sais plus lequel c'est qui pousse au Val d'Arpette. Il n'a pas les trous, mais les fleurs sont utilisables aussi pour faire l'huile de millepertuis. Mais cette espèce-là qu'on trouve, ou les autres espèces, ne sont pas des antidépresseurs. Pour faire des médicaments antidépresseurs, c'est que le millepertuis perforé, celui qui a les petits trous, qu'on peut utiliser, mais pour faire l'huile de millepertuis, on peut prendre les fleurs jaunes d'autres espèces. D'accord ? C'est bon? Je vais trop vite ou bien ça va? Bon, je parle très vite, normalement ça va. Bon, maintenant je vais parler, mon premier diplôme est d'ingénieur chimiste, mais je ne vais pas vous faire des formules, mais la molécule qui nous intéresse aujourd'hui, ça c'est la molécule pour lutter contre la dépression, et la molécule que vous avez ici s'appelle l'hypericine. Cette molécule ici, elle est rouge. Et ça c'est la molécule rouge qui est masquée par des flavonoïdes. Flavone vient du latin flavus, qui veut dire jaune. Donc les flavonoïdes sont jaunes. Et quand vous frottez, des fois quand j'ai des gamins pour une institution botanique, je frotte les pétales de millepertuis. Vous avez un truc comme ça qui apparaît, vous transformez, faites la magie presque en frottant ici ces pétales. Voilà, ici pour millepertuis. Alors, les propriétés qu'il faut savoir, en usage externe d'huile, antibiotiques vulnéraires, que ce soit les blessures, usage externe uniquement, usage interne, effet antidépresseur, et vous devez faire attention aussi, le millepertuis est phototoxique. Donc, si vous avez de l'huile de millepertuis, vous ne pouvez pas aller directement après au soleil. Il faut bien protéger la peau. Et quand vous prenez du millepertuis en usage interne, si vous avez des dépressions, il est indiqué qu'il ne faut pas s'exposer au soleil d'altitude ou faire des trucs UV. Donc, il y a une certaine phototoxicité. Et cette phototoxicité, là, elle est valable aussi chez les animaux. Je n'ai pas montré ici, mais j'ai des photos, par exemple, de bétail qui ont un pelage très clair. Quand ils bouffent du pertuis, eh bien, ils ont des cloques sur la langue, enfin, sur le museau. Disons, ça, c'est un phénomène qui est archi connu. Il y a des gens qui croient que les animaux ne s'intoxiquent pas. C'est complètement faux. Les animaux s'intoxiquent très, très facilement. Quand
Vous dites que le millepertuis c'est antidépresseur seulement en usage interne.
Oui, bien sûr.
Parce que si, par exemple, on masse les pieds avec une huile avec le millepertuis, est-ce que ça peut aussi aider?
Non, je ne pense pas. Je pense que c'est seulement l'usage interne qui est antidépresseur. Il y a des médicaments, dizaine de médicaments, je sais, comme vous savez. Certains sont même en liste B, sur ordonnance médicale. Parce qu'il y a des problèmes, le millepertuis en usage interne, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, enfin c'est ça. Mais en usage externe, je n'ai jamais vu que c'était antidépresseur. Je ne sais pas si vous avez une référence, ça c'est plus mon domaine, désolé. Bon, ça c'est une chose qu'il faut savoir, les animaux peuvent s'intoxiquer très très facilement. Alors on dit toujours que c'est les animaux domestiques parce qu'ils sont proches de l'homme. J'ai travaillé pendant 2 ans en Afrique sur une maladie, la maladie de la trompe molle de l'éléphant. Il y a des éléphants au lac Kariba, au Zimbabwe et en Zambie, qui bouffaient des plantes qu'ils n'avaient pas l'habitude de bouffer avant. Et un de mes doctorants a trouvé quelques substances neurotoxiques qui rendaient la trompe complètement molle. Et d'ailleurs, pour vous donner la réponse, il y a 15 ans en arrière, France 2 a fait un film, ils ont tourné une semaine avec moi et mes doctorants en Afrique sur les éléphants qui avaient cette trompe molle, c'est absolument terrible. Enfin, simplement, l'éléphant est un animal dit intelligent, il peut s'intoxiquer aussi. Donc c'est complètement faux de croire que les animaux ont l'instinct, ils ne s'intoxiquent pas. Oui, les intoxications de chats et de chiens qui bouffent n'importe quoi, ça arrive sans arrêt.
Moi j'avais entendu dire chez les herbivores que les intoxications étaient d'autant plus fréquentes quand l'herbe était coupée ou la plante était coupée.
Bien sûr, vous avez raison. Par exemple, un exemple classique, un exemple qui a eu à Champé, c'est par exemple le vérâtre. Vous voyez le vérâtre? Bon, les animaux ne bouffent pas. Vous voyez les champs, les pâturages entiers, juste le vérâtre qui reste parce qu'il est amer, il n'est pas bon. Mais il y a eu une intoxication il y a une vingtaine d'années. Le propriétaire du Val d'Arpette avait des ânes, et puis il a coupé l'herbe, et puis à ce moment-là, le foin, bien les ânes étaient intoxiqués grave, chacun a dû être abattu même. Hein. Vous avez raison, ça c'est clair. Et une fois que c'est séché, ils ne peuvent plus distinguer. Mais dans certains cas, ils arrivent à distinguer, je suis tout à fait d'accord. Avec vous. Maintenant, pour une fois, la préparation, c'est très très facile, malheureusement, on n'en a pas beaucoup, je n'ai même pas vu combien j'en ai pu ramasser. On prend les sommités fleuries, donc juste toutes les sommités fleuries, pas seulement les pétales, ça peut être toujours le pédoncule, etc. Les mettre dans un flacon, remplir un flacon, simplement, sans tasser, juste le mettre dedans, et puis ensuite couvrir d'huile d'olive, et ensuite, extrêmement important, j'ai pris ici, je vous en donnerai, j'ai pris ici, il faut mettre du tocopherol, qui est la vitamine E. La vitamine E est un liquide, huileux, donc ça va très très bien pour mettre là-dedans. C'est un antioxydant, comme ça on peut conserver l'huile de millepertuis plus longtemps. Alors là, on peut évidemment acheter les gouttes dans le flacon, mais c'est beaucoup mieux de prendre des gélules. Et quand vous préparez de l'huile de millepertuis, si vous avez, il y a très peu de gens qui vont préparer aujourd'hui, je vous donnerai ça à emporter, vous coupez et vous mettez une partie là-dedans, même si vous mettez le gélule entier, la vitamine E est très très bonne, très très bonne pour la peau. Donc ça c'est une chose importante à mettre, du tocopherol, qu'on appelle la vitamine E. Puis ensuite, bon, là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette théorie, qu'il faut l'exposer tous les jours au soleil pendant 3 semaines, c'est ce qu'on dit. Certains disent même qu'il faut l'exposer au rayon de la lune. Bon, il y a des gens qui ne croient pas du tout ça. Il y a des études même qui montrent que si on ne l'expose pas, c'est à peu près, ça revient à peu près au même. Là, c'est presque la sorcellerie, je ne vais pas entrer là-dedans. Et puis il y a des gens qui disent, enfin qu'on ne l'expose pas du tout, qui mettent tout au bain-marie pendant 2-3 heures. Et puis à ce moment-là, de toute façon c'est très facile à voir, quand vous mettez l'huile d'olive dessus, c'est la couleur de l'huile d'olive, et puis peu à peu ça deviendra légèrement rose, et quand c'est bien rouge, c'est à ce moment-là que vous avez extrait le principe actif. Donc c'est relativement facile à voir, exposition au soleil ou pas. Moi-même je ne prépare pas l'huile de millepertuis. Je prépare très peu de choses pour moi, sauf l'arnica. Je prépare l'arnica, mais je ne prépare pas l'huile de millepertuis. J'en prends pas. Ou des fois, j'en achète en pharmacie toute faite déjà. Alors maintenant, l'huile de millepertuis, utilisation désinfectant, antibactérien, antifongique, antiviral, très très bon cicatrisant. Oui, j'ai marqué ici écorchure, ecchymose, plaie, brûlure, inflammation de la peau, piqûre d'insectes, hémorroïdes, douleurs musculaires. Ben, il y a 1000 propriétés pour l'huile de millepertuis. Je n'ai pas marqué sur la diapo, mais pas s'exposer directement après au soleil, se couvrir, mettre une manche longue. Mais après quelques heures, vous pouvez aller au soleil, donc ça c'est clair, mais pas immédiatement. Voilà pour le millepertuis, oui.
Est-ce qu'on peut les donner, les appliquer aux animaux?
Aux plats?
Aux animaux.
Bien sûr, bien sûr, c'est connu. En médecine vétérinaire, c'est utilisé. Oui.
Les enfants aussi, sans problème?
Les enfants aussi, pas de problème. Pas de problème. Aux enfants, on peut donner, il n'y a pas de problème. Oui?
Est-ce qu'on applique sur une infection directement?
Pardon,
on peut appliquer directement sur une infection, une plaie infectée ou...
Vous pouvez.
Mais c'est quoi, combien de
temps? C'est pas comme l'arnica, parce que l'arnica, on verra tout à l'heure, l'arnica est une substance qui est anticoagulante. Alors, si vous mettez l'arnica sur une plaie ouverte, vous allez saigner, comme moi je saigne. Moi j'ai des anticoagulants oraux très puissants, moi j'ai un pacemaker, alors je tape tout le temps, puis taper en sortant de la voiture, je sais, ça dégouline comme ça, et puis là, n'est pas. Bon. Ce printemps, j'ai fait une visibilité au jardin, j'ai rien remarqué, j'ai dû heurter un mur, tout à coup il y avait une tache de sang, enfin ici, enfin comme ça. J'ai sans arrêt sur moi, pendant que j'y pense, vous devez connaître un produit, j'ai sans arrêt sur moi un produit qui s'appelle Stop Hemo, c'est de l'alginate de calcium, c'est un produit, vous le mettez sur, vous saignez, dans les secondes qui suivent, ça coagule le sang, vous ne saignez plus. Tout à l'heure, c'est Lucienne m'a fait remarquer que je saignais, je n'avais pas remarqué, ça dégoulinait. J'ai mis un pansement, j'en ai toujours sur moi, toute une série, simplement parce que si je me tape très fort, comme ça, je saigne, à cause des anticoagulants oraux, pour éviter un AVC, enfin ça c'est le prix à payer quand on a tout à coup besoin d'un pacemaker. Alors, ça c'est un truc à avoir aussi, si vous avez des enfants, d'avoir ça. Et le même produit existe ici, c'est comme un sparadrap, vous voyez, avec cette alginate de calcium. Il existe aussi en watt, si vous avez des saignements du nez. Mettez dedans, ça arrête le saignement du nez dans les secondes qui suivent. Alginate de calcium, oui.
Alors, pas pour le nez, mais sinon pour les saignements, moi j'ai toujours utilisé l'huile essentielle de cyste.
De quoi?
De cyste.
Oui. Mais ça c'est beaucoup plus efficace.
D'accord.
Pour moi, c'est le truc le plus efficace qui existe. Moi, avec tous les saignements que j'ai essayé beaucoup de choses. Et puis ça, c'est mon médecin qui m'a donné. Il faut trouver un rente libre, évidemment, en pharmacie. Ça ne coûte rien du tout. Et puis ça, c'est un truc utile à voir quand vous avez un enfant qui se blesse, enfin là. Et j'ai étonné que très peu de gens le connaissent. Stop. Et mon stop ou stop. Stop et mon. Alginate de calcium, un produit naturel. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des valaisons ici? Bien, oh, oh là, c'est des valaisons. Alors je vais vous montrer, on va passer maintenant à l'achillée millefeuille. Et là, je me moquais un tout petit peu, gentiment, d'un chanoine très célèbre dans le canton du Valais qui est décédé, qu'il utilisait pratiquement comme seule plante l'achillée millefeuille. C'est lui, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Ici, c'est un faute pas très belle. Ben voilà. Ah oui. Et qui a dit Bertuzzo? Ben voilà. Chanoine Bertuzzo. Moi, je lui rends hommage maintenant. Je lui rends hommage maintenant parce que on a une fois donné une conférence ensemble, lui parlait comme il l'utilisait pour pratiquement tous les mots. C'était sa plante préférée. Et puis je me disais, bon, il est bien gentil, le chanoine Bertuzzo. Maintenant, je lui rends hommage. Vous verrez pourquoi. Ça, chanoine Bertuzzo, qui est décédé, je ne sais pas quelle année, bon, je ne me souviens plus maintenant, mais je l'ai rencontré à plusieurs reprises. On a donné des conférences ensemble, on a mangé ensemble, on a aussi picolé ensemble, un peu, comme ça, de temps en temps. Enfin, mais enfin, je lui rends hommage parce que l'achillée millefeuille, vous verrez, c'est une plante qui est utilisée depuis très longtemps. Probablement la plante, la plus vieille plante médicinale au monde, et chanoine Bertuzzo, il la connaissait bien. Donc c'était juste pour lui rendre hommage pour ceux qui sont de Valaisan, qui connaissent enfin de nom. Voilà ici un gros plan sur la fleur, qui est très très belle, et on l'appelle millefeuille, tout simplement, parce que vous avez ces petites feuilles, enfin ici, ça c'est relativement facile. Alors maintenant, on va regarder ici, le nom latin c'est Aquilea millefolium, c'est une astéracée, millefeuille, on l'appelle aussi herba couture, et son nom vient de Achille, qui est célèbre du siège de Troie, la guerre de Vénus, a cicatrisé la plaie d'Achille, vous savez qu'il avait reçu une flèche empoisonnée au talon, et puis il a survécu grâce à cette plante. C'est pour ça que les Grecs ont donné le nom de cette plante. Ça c'est la mythologie grecque déjà qui le cite. Et puis bon, on l'utilise comme hémostatique. Oui, ça permet de couper le saignement, mais pas comme l'alginate, alors, hein. C'est pas efficace à ce point-là. Disons que comme hémostatique, je ne mettrais pas, parce que quand on saigne très fort, comme moi, avec les anticoagulants, ça ne marche pas très, 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 très bien. Trouble de la digestion, et puis maintenant, hémostatique, trouble de la digestion, et on obtiendra trouble de la menstruation. Maintenant, pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour chanoine Bertuzzo. Et vous allez voir ici ce qu'on fait maintenant. On fait des analyses ADN des plantes. Il y a 20 ans, on ne faisait jamais d'analyse ADN des plantes. Et il y a eu une publication qui m'a beaucoup frappé en 2017. En 2017, on a rapporté... Ah ben, les Grecs anciens, ils disaient que pour mieux bien digérer, il faut simplement prendre des feuilles et des fleurs d'achille et millefeuille et de les mâcher. Mâcher comme ça. C'est pas désagréable, je l'ai fait. Et puis, on a trouvé un crâne de l'époque du Néandertal. J'ai marqué l'époque du Néandertal, c'est moins 400 000 à moins 40 000. Quand on dit Néandertal, le premier Néandertalien qu'on a trouvé, c'était en Allemagne, dans un endroit qui s'appelle Néandertal. Et maintenant, quand on parle de l'homme du Néandertal, c'est l'homme de cette époque-là, comprise entre moins 400 000 et moins 40 000 de notre ère. On a trouvé, en 2015 ou 16, un crâne, c'était au Moyen-Orient, ou plutôt la région de l'Irak plutôt, on a trouvé un crâne, et dans ce crâne, de l'époque du Néandertal qui était daté, eh bien, on a trouvé, il restait 2-3 dents, comme ça, et les scientifiques qui ont fait une analyse, ils ont gratté la plaque dentaire de cet homme du Néandertal, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé l'ADN dans la plaque dentaire d'un Néandertalien de l'achillée millefeuille. Donc, ça c'est probablement la plus vieille preuve scientifique de l'utilisation d'une plante médicinale, ça remonte à l'homme du Néandertal. Moi, ça m'embête un tout petit peu, parce que j'ai en chantier un de mes prochains livres, les plantes médicinales dans l'art, grand art et l'histoire. maintenant, je dois descendre jusqu'à la période du Néandertal. Et actuellement, il y a d'autres études qui ont été faites. Ça, c'est la première fois qu'on a fait ça. Et puis, il semblerait que l'homme du Néandertal, il utilisait d'autres plantes encore qu'on a trouvées aussi dans les plaques, dans la plaque dentaire. La première étude a été faite, c'est pour ça que je pense que c'est absolument extraordinaire. Le chaman Bertuzzo, qui croyait tellement à cette plante, l'homme du Néandertal utilisait déjà cette plante. C'est ça que je voulais simplement vous montrer par cette petite démonstration. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette plante? Bien, il y a une huile essentielle, des flavonoïdes, des lactones, et puis on utilise surtout des infusions. Disons, les gens considèrent cette plante comme une mauvaise herbe. J'ai rarement vu quelqu'un qui, quand ils ont ça dans le jardin, ils la démolissent parce que ça pousse, enfin ça se propage très très facilement. Et puis, finalement, ça a des propriétés relativement proches de celles de la camomille. Botaniquement, c'est relativement proche de la camomille. Alors je trouve que c'est une plante qu'on peut utiliser beaucoup plus souvent. Alors maintenant, la teinture qu'on pourra préparer aujourd'hui, ensemble, eh bien, pour la teinture, on peut évidemment utiliser un usage externe ou aussi un usage interne. C'est la raison pour laquelle on ne va pas prendre de l'alcool à 70 degrés, comme pour l'arnica. L'arnica, c'est uniquement usage externe, pas interne. On va prendre de l'alcool à 40 degrés, à peu près, ça suffit. Ça ira très très bien. Et l'alcool à 40-42 degrés, l'alcool de fruits, ça peut être du kirsch, de la prune, de la pomme. La pomme, c'est le meilleur marché, c'est la pomme. Mais ça peut être de la vodka ou n'importe quoi. Non, parce que de toute façon, c'est tellement puissant. L'huile essentielle qu'on va extraire, parce qu'on va extraire les principes actifs, ça n'a aucune importance sur l'alcool que vous prenez. Ça ne prend pas la moindre importance. Aucune importance. Je ne sais pas ce qu'ils ont acheté, probablement de la pomme. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais bon. Couper les feuilles, les sommités fleuries, fraîches, en petits morceaux, souvent des ciseaux, juste faire petits morceaux comme ça, remplir le bocal jusqu'en haut, et puis recouvrir de l'alcool à 40 degrés, laisser macérer 2-3 semaines à l'abri de la lumière, et puis ensuite mettre dans un flacon teinté, parce que la lumière, souvent, ça peut abîmer, enfin, les principes actifs. Voilà la préparation, c'est archi simple. Il y en a autant qu'on veut. Moi, j'en ai juste, en partant de chez moi, j'ai juste arraché un tout petit peu, enfin, dans mon jardin. Enfin, là, c'est une plante. Moi, j'aime bien. Tout aime bien. Moi, je fais des infusions. Des fois, je mâche comme les Grecs et comme le Néandertalien. Bon, on va passer plus loin.
Mais, l'infusion, les fleurs ou les feuilles? Pour l'infusion.
Les sommités fleuries, à peu près juste là, tout ça, comme ça. Disons, c'est bien d'avoir les fleurs toujours avec. Les feuilles, ça marche aussi, mais il y a beaucoup plus de principes actifs dans les fleurs. Donc, pour l'infusion, vous prenez la plante fraîche, vous faites ça, puis vous mettez ça dans une tasse, de l'eau bouillante dessus, puis c'est fini.
Et si on les sèche, ça va aussi?
Oui, bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr. Bien sûr, on peut trouver, enfin, la plante séchée, bien sûr. Sinon, la plante fraîche, on n'a pas toute l'année. Hein. Oui.
Moi, j'ai une question. Parce que quand on fait une teinture mère, oui. C'est l'huile essentielle de la plante qui diffuse dans la teinture mère.
Non. Non, il y a tous les principes actifs. Là, il y a des sesquiterpènes lactones qui sont les molécules les plus importantes. Mais un peu d'huile essentielle qui va aussi passer dans l'alcool. Mais parce que dans la fleur, il y a de l'huile essentielle qui va passer un tout petit peu. Mais ce n'est pas le meilleur moyen d'extraire l'huile essentielle par là. Vous savez,
ça vient. Oui, ma question, c'est justement, ça n'a rien à voir avec l'huile essentielle.
Non, rien.
Parce que moi, je pense aux personnes qui sont allergiques aux huiles essentielles.
Ah oui, ça c'est clair.
Mais utiliser les teintures mères.
Non. Donc, c'est complètement différent.
Ouais, donc, ils peuvent utiliser les teintures mères.
Bien sûr.
Ouais. Merci.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on va vous dire ici, oui, digestion, oui, j'ai marqué ici quelques utilisations qui sont recommandées avant les repas, après les repas, règles douloureuses, 3 fois par jour, après la semaine passant les règles, usage externe, contusion, traumatisme, etc. Et puis une petite chose, enfin, quand vous appliquez sur les parties externes, imbiber simplement, faire des compresses à appliquer 2-3 fois par jour, 30 minutes par jour à peu près, contre-indiqué par voie orale chez l'enfant de moins de 12 ans, et ça c'est toujours des précautions qu'on trouve partout. Alors maintenant, pratiquement partout, on marque, pour chaque plante, on marque contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante, sans qu'on sache pourquoi. Mais ça c'est simplement l'industrie pharmaceutique qui se protège d'un truc comme ça. Il n'y a souvent aucune preuve, enfin, mais ça c'est une chose assez importante quand même à savoir. Et puis les gens qui ont des anticoagulants oraux, comme moi, ils ne devraient pas en prendre trop. Il n'y a pas de substance vraiment anticoagulante, mais il faut faire attention. Voilà pour la teinture de 1000 feuilles.
Pourquoi vous la faites dans une base alcoolique plutôt que de l'huile, par exemple?
Oui, c'est une bonne question. Simplement, ça dépend toujours. Il n'y a pas de règle. Mais dans le cas particulier, pour millepertuis, on sait que c'est cette molécule rouge qui est très très peu polaire, liposoluble. Mais ici, il y a des gens qui font des différents de l'huile d'acier millefeuille. Je trouve que il rate la moitié des principes actifs. Les principes actifs importants sont des 6-butyrène lactone qui ne sont pas solubles dans l'huile. Donc avec l'alcool, on va extraire plus de molécules. Mais ça pour chaque plante, c'est tout un raisonnement à faire selon le contenu de la plante. Donc il y a des gens qui feraient ça, mais moi je trouve que ce serait une très mauvaise idée.
Et puis la feuille frottée sur une plaie, ça marche?
Si, ça marche.
Aussi,
oui. Oui, ça marche. Okay. Oui. Ça marche, bien sûr. Okay. Ça, c'est clair. Ouais. Non, on peut le faire, bien sûr. On va passer maintenant à l'arnica. Là, j'ai une belle photo d'arnica, ici. Alors, l'arnica, il y a beaucoup de gens qui confondent l'arnica parce que chez nous, dans nos montagnes, on a à peu près 40 espèces d'astéracées qui ont des fleurs jaunes. Alors, il y a un critère, à mon avis, pour reconnaître l'arnica, pour moi, c'est le seul qui est valable. Et j'ai fait des photos, je crois, avant-hier, encore, juste pour préparer de belles photos. Et puis j'attendais qu'il y ait le premier arnica qui est en fleur quand on monte le Val d'Arpette. Alors, ici, vous voyez, le seul critère valable, à mon avis, c'est celui-là. L'arnica, vous pouvez le reconnaître, il y en a partout maintenant. Il y a une rosette avec 4 feuilles, juste au niveau du sol. Et ici, je fais la même photo, vous voyez, c'est vrai. Là, j'ai la même photo maintenant en plus grand, et vous voyez ici. C'est clair et net pour l'arnica. Vous avez ces rosettes que vous voyez partout, vous marchez dessus. Moi, au printemps, quand je me promenais aux expositions botaniques, il n'y a pas la moindre arnica en fleurs. Je dis, ça, c'est l'arnica. Ah, où est l'arnica? Simplement, vous avez, ça commence avec cette rosette, puis après la tige, elle monte. Donc, pour moi, c'est le critère le plus valable. Bon, d'autres gens vont garder dans le pédoncule, les capitules ou je ne sais pas quoi, mais ça, c'est pas sûr. Le seul truc absolument sûr, toute arnica, vous avez toujours exactement ça, comme j'ai fait sur cette photo, et c'est comme ça. On ne peut pas confondre l'arnica. C'est à confondre avec le sémission. Et le sémission, il contient des alcaloïdes pyrolysidiniques, bon, qui peuvent pénétrer par la peau aussi. Alors, il faut quand même faire un tout petit peu attention à ne pas confondre les plantes. Alors, l'arnica, il est clair que même si l'arnica sent bon, surtout ça sent bon, on ne fait pas des infusions d'arnica. Ce n'est pas une plante toxique, mais si vous faites des infusions d'arnica, ben, c'est complètement contre-indiqué parce que vous aurez des maux de ventre. Même pas des diarrhées, mais simplement des maux de ventre, enfin des maux d'estomac. L'arnica en usage interne, c'est uniquement en homéopathie, mais pas, sinon c'est prohibé. Personne n'aura l'idée de le faire. On dit toujours, vous achetez de l'arnica séché comme vous achetez ici. On ne fait pas des infusions d'arnica. Que ce soit la plante fraîche ou la plante séchée, ça donne des maux de ventre, c'est complètement prohibé. Alors, dans tous les traités de médecine vous le disent. Ça, c'est juste pour critère d'identification. Retenez ça, à mon avis, c'est la chose la plus importante pour l'identification C'est ce petit détail qui n'est même pas mentionné dans les livres, je ne sais pas pourquoi. Enfin, souvent, ils nous ont des explications farfelues que personne ne comprendra. Enfin, alors c'est incroyable. Maintenant, là, j'ai juste marqué encore ici, j'ai déjà expliqué, l'arnica de plantes protégées, berne protection partielle, frigo partiel, donc cueillette 10 fleurs max par jour autorisée, pour protection totale, pour balai, il n'y a pas de mention dans la loi. Pas de mention, ça signifie pas de protection. Aussi simple que ça, ça on l'a déjà dit, et de plus en plus de firmes pharmaceutiques savent que l'arnica frais est beaucoup plus utile que l'arnica séché. Et on a ici un champ d'arnica, par exemple, que j'ai photographié à Bruzon. À Bruzon, il y a à Bruzon, dans notre canton du Valais, à Bruzon, il y a une station agricole qui fait partie de l'agroscope de Comté. Ils ont un domaine à Bruzon où ils cultivent des plantes médicinales. Vous pouvez aller voir là-bas, vous demander à visiter, c'est absolument magnifique. J'ai fait des excursions botaniques à Bruzon. Vous avez des champs d'arnica, vous avez aussi des champs d'orpin rose. On m'a parlé tout à l'heure, c'est une plante à la mode, plante anti-stress, et je crois que c'est une chose assez intéressante d'aller visiter ce domaine agricole, enfin ici. L'arnica est difficile à cultiver. Il y a des firmes pharmaceutiques qui arrivent maintenant très très bien à le faire, et moi je suis un adepte de l'arnica frais, et j'ai juste apporté ici, c'est pas pour faire de la réclame pour un produit, mais ici, il y a un produit suisse. Je trouve que c'est un des meilleurs produits à base d'arnica qui existe en commerce maintenant. Il s'appelle Atromed, un gel. Et un gel, ça permet une pénétration mieux que la teinture encore dans le gel. Et ça va pénétrer un peu plus profondément. Et ça, c'est la plante fraîche. La firme Alfred Vogel, Bioforce, ils utilisent beaucoup de plantes fraîches. Et là, je trouve que ça, c'est un produit absolument remarquable. Donc, contracturation, courbature, rétervalu, douleur dorsale, lumbago, etc. Et je crois que c'est pour l'arthrite, l'arthrose. Seule chose à ne pas jamais faire, ne jamais mettre de l'arnica, que ce soit teinture ou gel, sur une plaie ouverte. Ou même quand vous avez une éraflure du sang qui est déjà coagulée, vous mettez l'arnica dessus, vous risquez de provoquer des saignements. Il y a une substance anticoagulante dans l'arnica. Souvent, les anticoagulants, évidemment, ils passent par le foie. Hein, c'est par voie orale qu'on prend les anticoagulants, mais il y a des anticoagulants aussi, comme ça, comme il y a un produit coagulant que je vous ai montré tout à l'heure, l'alginate de calcium. Donc, ne jamais, jamais mettre de l'arnica sur une plaie ouverte. Ça va directement empêcher la cicatrisation, parce que ça va se mettre à saigner. Donc ça, c'est un produit que j'ai apporté. Enfin, si quelqu'un veut l'emporter, il peut. Hein, je donne, c'est un gel qui est absolument magnifique. Vraiment, vraiment bien.
Ça ne fait pas d'allergie?
Ah oui. Oui. Ah mais enfin, il y a beaucoup de gens, on va en parler. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux astéracées. Oui. Alors ça dépend. Il y a une personne sur 3000 à peu près qui est allergique à l'arnica, à la camomille aussi. Moi, j'ai des photos, enfin, quand je parle des allergies, par exemple, des gens qui ont un problème avec la peau, puis ils mettent du camiozan dessus, plus ils mettent du camiozan, c'est un dermatologue qui m'a donné ça, plus vous avez des allergies qui se forment. Moi-même, j'avais une allergie l'année passée, tout à coup. J'avais une blessure, je prenais du Merfone dessus, j'avais tout le bras comme ça, et puis finalement, le médecin, le dermatologue, il a fait des tests, je suis allergique au Merfone. Dans le Merfone, il y a une substance chlorée assez puissante. Le Merfone qu'on donne partout, enfin, dès que vous avez n'importe quelle blessure, on prend du Merfone. On prend du Merfone, j'ai le bras qui vient comme ça, immédiatement. Et ça, ce n'est pas le cas il y a 3 ans en arrière, tout à coup, avec l'âge, je ne sais pas, vous avez des allergies qui proviennent d'un problème, je ne sais pas, enfin, ça c'est un domaine dont je ne vais pas aborder, mais c'est, disons, les allergies, vous avez raison, il y a beaucoup de gens, de manière générale, allergiques aux astéracées, dont l'arnica, dont la camomille, dont même aussi, tout à l'heure on en a parlé, l'archer millefeuille aussi. C'est surtout les astéracées, et après ça peut faire des allergies croisées ou des trucs comme ça. Ça c'est tout un domaine, ça c'est clair, ça c'est sûr. Maintenant l'arnica, on va y aller ici. Vous avez ici une trentaine d'espèces différentes, il y a beaucoup d'arnica. Très souvent chez nous, il y a des firmes pharmaceutiques qui utilisent un arnica américain, qui vient des montagnes rocheuses, qui est plus facile à cultiver que l'arnica montana de chez nous. Or, ils flanquent ça dans des préparations. Mais enfin, ça, c'est pas... Bon, utilisé depuis longtemps, surtout par les tribus germaniques, Hildegard de Bingen, la sainte Hildegard, comme on l'appelle, ben, elle l'utilisait aussi. Et puis, bon, il y a eu beaucoup de... d'études chimiques, plus de 150 constituants différents sont produits dans l'arnica. Comme j'ai déjà dit, application externe seulement, excepté en homéopathie. Ça, c'est clair et net. Alors, ici, on va faire une propriété vulnéraire, ça guérit les blessures, antiseptique, antiphlogistique, antirhumatismal, traitement des contusions, quand on a un bleu. C'est pour ça que quand on a un bleu, vous mettez ça, ça pénètre, et puis ensuite, comme il y a un anticoagulant, ça fait partir le bleu plus rapidement. C'est ça qui explique qu'on utilise l'arnica en usage externe contre un bleu. Il est évident qu'un gel, il pénètre un peu mieux que la teinture d'arnica. La teinture marche aussi, mais quand vous avez juste un bleu sous la peau, comme ça vous arrivez à faire partir le bleu parce qu'il y a une substance anticoagulante dans l'arnica. Voilà. Piqûres d'insectes, enfin tout plein de choses, éviter d'appliquer sur les plaies ouvertes. Usage interne prohibé, c'est marqué faible toxicité, on ne peut même pas parler toxicité, mais quand il y a des maux de ventre, c'est déjà un petit problème. Alors ici, je vous ai donné la recette pour faire la teinture. Bon, quand c'est la plante fraîche, c'est nouveau, exactement la même chose que pour les autres, comme j'en ai ici, j'en ai quelques que j'ai ramassé ce matin. Là, vous prenez simplement toutes ces parties-là, avec les ciseaux, vous coupez, et vous remplissez votre flacon, et vous ajoutez l'alcool ici à 70 degrés. Mettre l'alcool à 70 degrés pour extraire plus de principes actifs. Et puis, si c'est les fleurs séchées, 1 gramme ou 2 grammes. Ça dépend. Le problème, les fleurs séchées, c'est très très volumineux. Parce que les pétales, enfin, qui sont secs, c'est comme un peu les dandelions. Vous voyez, c'est la même famille botanique. Ça devient très très volumineux. Puis là, on a des fois de la peine à mettre 2 grammes. Moi, je pense que 1 à 2 grammes à peu près, ça doit suffire pour faire pour 100 ml d'alcool à 70 degrés. Les fleurs séchées, on met 5 jours ou 7 jours, ça n'a pas tellement d'importance. Filtré, vous avez la teinture d'arnica, mais petite chose importante, on ne met pas de l'alcool à 70 degrés sur la peau. C'est un peu trop puissant. On la dilue toujours avant d'utiliser. Une part de teinture et 4 parts d'eau, et puis appliquer ce mélange sous forme de compresse en ordre désiré. Puis je répète encore, et puis je répéterai toujours, ne pas appliquer sous une plaie ouverte. Parce que vous aurez des saignements, puis même une éraflure. Quand vous avez une éraflure comme ça, avec du sang coagulé comme ça, mettez dessus, ça peut provoquer le saignement assez rapidement. Voilà pour les choses importantes à savoir. Et puis, maintenant j'ai marqué ici les utilisations. Traitement des hématomes, oui.
Alors, si quelqu'un a une bosse comme ça parce qu'il s'est tapé.
Oui.
On ne peut pas non plus faire une compresse, parce que ça, est-ce que la compresse peut faire saigner l'hématome?
Non. Si la peau est intacte, il y a zéro problème. Okay. Si vous avez une bosse comme ça, si la peau est intacte, il y a zéro problème. Mais moi, j'en mettrais sur le banc. Mais moi, quand j'ai un bleu, je le mets dessus. Il y a zéro problème. Oui, moi j'ai les bleus partout, je tape là, je mets de l'arnica dessus pour faire disparaître les bleus le plus rapidement possible. Quand vous avez des anticoagulants, le moindre choc, enfin, ça fait un des bleus comme ça.
Est-ce qu'il y a de l'arnica dans le trauma plante?
Traumaplante.
Je sais pas.
C'est une pomade.
Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je la connais pas.
La qualité de l'alcool que vous utilisez, c'est-à-dire avec des adjonctions ou sans adjonction, importe sur la qualité du produit fini.
Disons, comment vous pouvez prendre de l'alcool qui est de l'alcool de bon marché. Ça, c'est un usage externe uniquement. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter de l'alcool à la bouche, qui est extrêmement cher. Vous pouvez, comme c'est l'usage externe uniquement, ce cantre qu'on met dedans, ça ne me gêne absolument pas. L'utilisation. Donc, ici, je pense qu'ils ont acheté de l'alcool, enfin, qu'on utilise pour désinfecter, mais qui n'est pas de l'alcool de bouche, enfin, ça c'est clair. Pas de problème. On peut prendre de l'alcool qui est relativement bon marché pour ça pour le faire. Bonne question. Très bien. Alors, qu'est-ce que vont encore dire là-dessus? Hématome, contusion, douleur articulaire musculaire. Arthrite, arthrose, œdème, sans cette douleur dans la jambe, toujours les yeux aussi allergiques à l'arnica et autres espèces de famille astéracées. Mais ça, c'est à vous de savoir si vous êtes allergique ou pas. Et tout à coup, on ne peut pas être allergique et devenir allergique subitement. Moi, j'ai toute ma vie, j'utilisais du merfum et tout à coup, je ne supporte pas le merfum, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être à voir avec le système immunitaire, probablement, toutes ces allergies, je ne sais pas. Maintenant, je vais prendre un peu de temps, j'aimerais juste vous montrer deux, trois plantes qui sont des plantes à la mode. Et une des dernières plantes qui a été enregistrée par Swiss Medic, je ne sais pas si le jardin est en fleurs, chez moi il y en a en fleurs déjà, c'est l'ourfrin rose. Je vais juste prendre un petit quart d'heure pour parler. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre mon exposé Actualité. Ça n'a rien à voir avec les préparations qu'on peut faire nous-mêmes. Mais j'aimerais juste vous montrer une plante qui va beaucoup intrigué, c'est un article dans le magazine américain Newsweek. C'est un collègue américain qui m'a envoyé ça en 2003. En 2003, je reçois ça d'un Américain qui me dit, écoute, voilà un article intéressant. Puis si vous lisez ici, vous n'allez pas à lire, enfin là, c'est marqué Afghanistan, soldats soviétiques. Tout simplement, enfin, quand les soviétiques ont occupé l'Afghanistan, ils avaient un demi-million de soldats en Afghanistan, pour lutter contre l'angoisse de la guerre, le stress, la fatigue, eh bien, les soviétiques, à l'époque, ils avaient des tonnes d'une racine en Afghanistan pour donner à leurs soldats, pour les mâcher les racines, ou bien pour les mettre dans la vodka. Hein, comme ça, en même temps, ça prend le traumatisme de la guerre. À l'alcool, on sait que c'est connu quand on met de l'alcool dans les soldats qui sont dans les tranchées. Et puis aussi, on peut faire des infusions, etc. Donc, c'est comme ça que la plante a été connue chez nous, simplement par cet article, Herb Stress Buster, un anti-stress végétal. Et la plante, elle est ici, elle s'appelle Ourfrin Rose. Alors, elle s'appelle Ourfrin Rose. Et je me souviens, il y a peut-être 10 ans, j'ai donné une conférence à Martigny, puis une personne à la fin me demande « Pourquoi vous appelez ça ourfrin rose alors que les fleurs sont jaunes ?» Je ne savais pas répondre, mais quand j'ai vu cette publication américaine, j'ai lancé une de mes doctorantes sur la plante, elle savait répondre. Si vous prenez la racine de la plante, et que vous... la casser en deux, vous avez l'odeur typique de la rose. C'est l'odeur de la rose, c'est l'odeur de la rose que vous avez. En allemand, la plante s'appelle Rosenwurz, Rosenwurz, Ourfrin rose, alors que les fleurs sont jaunes. Alors il y a des ourfrins chez nous qui ont des fleurs roses, mais on ne les appelle pas ourfrin rose. La racine a l'odeur de rose, l'odeur typique, elle est constituante de l'essence de rose en petite quantité, mais ça suffit d'avoir l'odeur de rose. Maintenant, juste une petite chose aussi, il y a des courageux, des paysans valaisans qui cultivent cette plante, mais elle est difficile, elle n'est pas difficile à cultiver, mais elle est très embêtante, parce que si vous avez une petite plantule comme ça, il faut attendre 5 ans que la plante ait cette taille-là à peu près. Et comme on utilise les rhizomes et les racines, quand vous avez la récolte pour vendre à l'industrie pharmaceutique, tout est fini. Alors les paysans, les rares paysans qui font ça de la région d'Evolène, chez nous en Valais, eh bien, ils ont chaque année, enfin, vous voyez, ils doivent livrer chaque année. C'est un truc assez enquiquinant. Ça, c'est un enquiquinant à cultiver. Mais il y a quand même des gens qui le font. Alors ici, j'ai marqué, ça c'est juste pour la botanique, un peu. Roséens, donc, la fatigue et le stress, il y a... Moi, je ne l'ai jamais vu dans la nature sauvage. Hein. Je ne l'ai jamais vu. Je crois que dans notre district, si elle ne pousse pas, elle pousse dans la région de Matmark. Moi, j'ai envoyé ma doctorante en chercher dans la région de Matmark. Et puis, enfin, l'agroscope de Comté a fait des variétés maintenant qui sont très, très riches en principes actifs. Moi, je n'ai jamais vu dans la nature. Moi, j'en ai reçu à Brusan la cultive. Et à Brusan, il la cultive, il y a un champ. Et c'est là que j'ai reçu des plantes que j'ai mises dans mon jardin. C'est une plante qui est contre le stress et la fatigue, etc. Donc je ne vais pas vous faire un long exposé là-dessus, mais juste un mot sur le stress. Comment est-ce qu'on peut savoir, ou quelles sont les hormones du stress?
Cortisol.
Il y a l'adrénaline, d'abord. Ah, vous avez stressé, vous avez une montée d'adrénaline, mais... L'adrénaline, ça monte, ça descend. Il y a une hormone très sournoise du stress, qui est le cortisol. Pas contre le cortisol, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qui est extrêmement néfaste. Là, j'ai juste mis on ne voit pas bien. Là, c'est le cortisol ici, vous avez ici, et vous avez ici l'adrénaline. Alors, quand vous êtes stressé, le cortisol, il monte, et quand le cortisol monte, vous avez le système immunitaire qui descend. Ça signifie qu'une personne stressée sera atteinte très facilement d'une pneumonie ou de n'importe quelle autre maladie. Enfin, ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et puis, il faut aussi dire que quand quelqu'un est stressé, il y a aussi un effet, les gens sont déprimés, le stress, ça comprend mille choses, mille problèmes. Enfin. Et puis, enfin, sur le... L'orpin rose, on a montré qu'il y a des substances qui sont contre la dépression aussi. Nous-mêmes, on a travaillé sur la plante. Vous avez ici des substances enfin, qui sont antidépressives, enfin latentes. Il y a tout plein... Bon, ça, c'est un truc qui est assez terrible. On a fait le test de désespoir comportemental. C'est des tests un peu durs. J'ai montré des films à mes étudiants. On stresse les animaux, on les met nager, on met des souris ou des rats dans un bassin d'eau et puis on les laisse nager jusqu'au moment où ils ne peuvent plus. Et quand ils plongent deux, trois fois, on les repêche et puis on les sèche, on les utilise à nouveau pour faire une... Non, ça c'est l'exploitation animale. Ben, chez nous, c'est évidemment extrêmement difficile, mais ce qui est problématique, les universitaires comme moi, quand j'avais un laboratoire avec une trentaine de collaborateurs, 20 ans en arrière, quand on avait des tests sur les animaux à faire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes directeur de recherche, qu'est-ce qu'on fait? C'est évidemment éthiquement pas bien, mais vous allez dans un autre pays, où la législation est différente. Alors à l'époque, l'Espagne avait... C'était pas encore l'Union européenne, à l'époque, quand j'étais jeune prof, on envoyait ça en Espagne. Et après, les Espagnols ont eu des lois presque aussi dures que les nôtres. Et après, qu'est-ce qu'ils font là, dans l'industrie? On les envoie dans quel pays? Où il n'y a aucune réglementation sur les animaux?
La Chine.
Moi, j'ai vu des laboratoires industriels en Chine. Je ne veux pas vous raconter ce que j'ai vu avec des chiens. Hein. Je peux pas, c'est inimaginable, enfin. Alors, ce que les gens font, quand ils font, c'est éthiquement, c'est pas bien. Ils vont dans des pays où il y a une autre législation pour faire les tests. L'industrie actuellement le fait, et aussi mes collègues encore actuellement, qui ont besoin de tests sur des animaux, ils font ça. Parce que, voilà, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais enfin, ça c'est ce qui se fait malheureusement. Des études cliniques, moi je vais aller directement à celle-là. Voilà. Ici vous avez une étude clinique qui a été faite, et actuellement quand on veut mesurer les hormones, plus en plus, on ne fait pas de prise de sang. on fait des prises de salive. On retrouve toujours, on sait, les hormones dans la salive. Si on veut déterminer le taux de testostérone, par exemple, il y a une plante qui passe pour un excellent aphrodisiaque à l'heure actuelle, c'est le jus de grenade. Le jus de grenade de la Tribune Genève a même titré il y a quelques années en arrière, le jus de grenade plus fort que le Viagra, c'est évidemment exagéré, mais si un homme prend, une étude clinique prend du jus de grenade 2 décis par jour pendant 2 semaines, son taux de testostérone augmente de 20%. 20%, ça c'est énorme. Il n'y a pas de testostérone dans la grenade, mais une substance qui facilite la biosynthèse de la testostérone dans les testicules. Et ce qu'on fait maintenant, on fait des études, on détermine les hormones dans la salive. Ici, on a fait la même chose. Vous avez ici, le placebo, vous avez ici le placebo, et vous voyez que vous avez une baisse du taux de cortisol, salivary concentration de cortisol, le taux salivaire de cortisol. Ça montre qu'il y a, ça c'est une étude claire et nette, l'hormone du stress diminue. Et maintenant, l'orpérose, il est enregistré comme médicament sous le nom de, est-ce que peut-être qu'on connaît, non?
Rodiola?
Non, Vitango. Il n'y a qu'un produit enregistré par Swissmedic qui s'appelle Vitango, V-I-T-A-N-G-O. Par Rodiola, il s'appelle Vitango. C'est simplement un extrait de standardisé de Rodiola rosea. On verra tout à l'heure, probablement. Alors ici, stress surmenage, vous voyez ici, stress surmenage, fatigue, épuisement, irritabilité, etc. Il y a beaucoup de sportifs qui le prennent. On dit aussi, prennent des infections, voilà toutes les indications. Contre-indication, toujours à peu près les mêmes, enfin. Bon. Maintenant, je vais passer à ma plante préférée, que malheureusement, je n'ai pas en fleur ici. Ils en ont une, mais ils l'ont plantée sous un sureau. Alors, elle ne va jamais fleurir. Chez moi, les fleurs ont déjà passé. Ça, c'est ma plante préférée, l'orpin rose. L'orpin rose, photographie à Champé, à 100 mètres d'ici. Les fleurs.
C'est pas l'orpin rose, ça.
Oh, pardon, j'ai des bêtises.
Oui, c'est
pas
l'orpin
rose. Non, mais tu es encore mon cerveau, il devient lent avec toi. Non, c'est évidemment l'aronia. C'est Aronia mélanocarpin. Aronia mélanocarpin. Aronia mélanocarpin. Ça, c'est la plante. Et elle fait partie de la famille des rosacées. En allemand, c'est Schwarze Apfelbeere. Vous voyez, c'est des fleurs, comme des petites fleurs. La plante atteint cette hauteur. Moi, j'en ai 15 chez moi. L'année passée, mon jardinier a ramassé à peu près 10 kilos de fruits avec ses 15 arbustes. C'est beau. Et l'automne, les feuilles deviennent rouges, enfin, carrément rouge sang. Et ça, c'est le fruit. On utilise les fruits. Vous avez ici le fruit de cette plante. C'est un peu comme un cassis, un peu plus grand, mais c'est noir. C'est la plante qui contient le plus d'anthocyanes, d'antioxydants de toutes les plantes qui existent au monde. Vous avez ces fruits. On peut acheter du jus de cette plante. Et ça, c'est les baies séchées. Moi, je sèche les baies. J'en prends tous les jours à peu près 15 à 20, enfin, par jour. Le jus, il est recommandé de ne pas en prendre plus qu'un décis par jour parce que les Américains sont devenus fous. Ils prennent des antioxydants synthétiques n'importe quoi. Et une publication parue il y a moins d'une année montre que si on prend trop d'antioxydants, on ne sait pas la limite exacte encore, l'effet antioxydant peut être inversé et pourrait devenir un effet pro-oxydant. Alors au lieu de ralentir le vieillissement, vous allez l'accélérer. C'est la raison pour laquelle les fabricants ou les vendeurs de jus de fruits, ce n'est pas moi qui l'aurais dit, ils le savent, ils marquent sur l'emballage à prendre 20 baies par jour ou 1 décis par jour. Jus de pomme, vous pouvez boire 5 décis, mais si vous buvez 5 décis de jus d'aronia, peut-être vous aurez cet effet pro-oxydant. On ne sait pas, il y a toute la d'études maintenant, je ne peux pas vous dire à quel moment il faut. On va inverser. Personne ne sait pour le moment. C'est tout nouveau qu'on a trouvé. Si on en prend trop, il peut avoir un effet inverse. ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Donc, conseillez un décile par jour ou bien une vingtaine de baies. Alors maintenant, on arrive ici à la plante, ici, Aronia melanocarpa rosacée. La plante est originaire d'Amérique du Nord. On la trouve dans les montagnes rocheuses, mais encore plus au Québec. Au Québec, c'est bourré de cette plante. Elle pousse à l'état sauvage. Et les indigènes au Québec mangent les fruits, les utilisent dans la cuisine aussi. La chaleur ne détruit pas les principes actifs. Ça, c'est important. Vous savez que la chaleur détruit la vitamine C, mais ces constituants anthocyanes ne sont pas détruits par la chaleur. Eh bien, les indigènes prenaient ça pour mieux supporter les rigueurs de l'hiver. Donc, c'est un excellent immunostimulant. Moi, depuis que j'en prends, je n'ai jamais eu de refroidissement. Ça fait peut-être depuis 7-8 ans que j'en prends régulièrement. Pas tous les jours, mais 3-4 fois par semaine. Je n'ai jamais eu de refroidissement. Et voyez ici les polyphénols, vous avez pratiquement 1,5 g d'anthocyane dans 100 g de fruits frais. Et quand vous parlez d'anthocyane, dans la myrte, il y a aussi des anthocyanes, dans le cassis aussi, mais c'est des structures chimiques différentes, qui ont des propriétés différentes. Dans la myrte, vous n'avez pas les mêmes anthocyanes, donc des propriétés différentes. Voilà ici tout ce qu'on fait. En Suisse, on estime qu'il y a 200 000 qui ont été plantés les 2-3 dernières années. Moi-même, je fais venir mon jus du canton d'Argovie. Il y a un couple de paysans qui en a planté 40 000. Et puis, ils étaient très, très malins. Ils l'ont taillé en haie. Et puis, un ingénieur leur a construit un appareil. Ils font la récolte mécanique. Dès que vous pouvez faire la récolte mécanique, ben, ça change tout pour le prix, etc. Le premier qui a fait ça, c'est dans le canton de Vaud, un Jean-Luc Chabot, près de Gimel, enfin dans le canton de Vaud. Lui, il a planté 1000, c'est lui qui l'a fait connaître en Suisse, mais il a planté n'importe comment. Ça signifie qu'il doit engager des gens pour faire la récolte à Emmanuel. Alors maintenant, les Suisses allemands, ils arrivent à vendre leur jus. Je crois 3 litres, c'est dans les 36 francs. Donc c'est 12 francs le litre. Ils ont des berlingots comme ça, un petit robinet, puis vous pouvez saper. Et puis vous n'avez même pas besoin de garder au frigo, parce qu'il y a tellement d'antioxydants latents, il y a tellement d'antioxydants que jamais un insecte, on n'a pas besoin d'insecticides, on n'a rien, c'est vraiment bio, 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 il n'y a aucun problème. Donc c'est une plante, je dirais, presque magique. Moi-même, je suis un grand fan, et puis je crois que j'en ai parlé un peu partout de cette plante.
Ça se multiplie par des boutures. On peut faire des boutures.
Je ne sais pas. Moi, je ne connais rien dans les boutures ou pas. Probablement, on peut, mais moi, je ne sais pas. Moi j'achète à mon âge canonique, je n'achète pas des petits machins comme ça. Avec les boutures, c'est trop de pour moi, ça ne va pas. Moi, j'achète déjà des arbustes à 30-40 balles qui sont déjà même en fleurs, comme ça, j'ai directement la récolte. Mais vous avez raison, la bouture, c'est certainement possible, je ne connais pas.
Ça supporte tous les sols ou il faut un sol particulier?
Ça pousse n'importe comment. Les gens posent, ça aime le soleil. Hein.
Aime le soleil.
En plein soleil. Moi j'en ai dans la caillasse. Ici, là, il y a la caillasse. J'en ai fait planter un peu partout, autour de ma maison, il y en a partout. On n'a pas le temps d'aller, mais sinon on irait les voir. Enfin, ils sont juste en fin de floraison. Il y en a juste un ici au jardin. Ils en ont planté un, malheureusement, sous un pin. Vous savez que les aiguilles de pin qui tombent, ben, c'est pratiquement un herbicide. Alors, il n'a jamais fleuri. Alors, j'en ai offert l'année passée un autre, mais il l'a planté sous un autre arbuste. Enfin, j'ai poussé une petite braillée tout à l'heure. Je dis qu'il faudra peut-être le déplacer, sinon je l'offre encore un. Enfin, mais on a le conseil de fondation lundi, une réunion, donc je pourrais en parler. Bon. Voilà, on va passer ici. Le fruit le plus riche en polyphénol, anthocyanidine, propriété hépatoprotecteur. Ben, j'ose plus dire ça, une fois j'ai dit qu'il y a des plantes. Est-ce qu'on a un hépatoprotecteur comme plante? Le chardon-marie. Le chardon-marie. Une fois dans une conférence à B, j'ai dit, enfin, je parlais du chardon-marie, puis j'ai dit comme ça on peut boire un verre de rouge de plus par jour. Ce qui m'a valu une lettre d'insulte d'une dame médecin qui était là, qui dit, vous êtes professeur d'université, les gens vous croient, puis vous poussez les gens à boire de l'alcool, enfin. Moi, j'ai répondu à cette dame, vous étiez à ma conférence, dans les discussions, vous n'avez rien dit, vous auriez dû le dire, comme ça j'aurais pu vous mettre en place, enfin, bon. Bon. Moi, je suis content, quand on me critique, je suis content. Je suis content parce que si vous n'avez pas d'ennemis, vous ne valez plus rien dans la vie. Il faut avoir des ennemis, des contradicteurs, enfin, moi j'adore. J'adore, je suis provocateur par moment. Pas aujourd'hui, enfin, non. Bon. Propriété anti-inflammatoire, cardioprotecteur, beaucoup d'études maintenant sur la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez ralentir la progression de maladie d'Alzheimer. Et puis la chose la plus importante, je crois, à mon avis, c'est ça. Il y a des études qui ont été faites, une étude a été faite. Il y a des Vaudois ici ou bien quand même? Il y a des Vaudois. Vous voyez où se trouve Prévenoge ou bien?
Oui.
Il y a une dame médecin, Prévenoge, a fait une étude observationnelle. Elle a donné 15 B par jour à une cohorte de patients. Eh bien, ils arrivaient à abaisser très nettement le taux de cholestérol LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol. Donc, ça abaisse le taux de mauvais cholestérol. Et puis maintenant, puisque je suis là, je fais un peu de réclame. Mon prochain livre, il sort dans 3 semaines. Il sera intitulé « Des plantes pour prévenir les maladies cardiovasculaires, hypertension ». Mais j'ai aussi mis l'hypotension, cholestérol, infarctus, AVC, thrombose, embolie. Voilà. Et puis j'ai surtout choisi des fruits et des légumes. Et puis pour l'hypertension, ce qui marche très très bien, par exemple, c'est le jus de betterave. Le jus de betterave rouge, il y a des études magnifiques qui montrent que ça marche. Et puis surtout une étude qui marche très très bien aussi, c'est l'hibiscus. Les fleurs de l'hibiscus, les calices de l'hibiscus, enfin, vous pourrez acheter le livre, comme ça je gagnerai 2,50 francs par livre, ça c'est déjà ça pris, enfin là, bon. Pour le prochain livre, il est en préparation déjà, quand il est fini à l'impression, je commence le prochain, ce sera des plans pour les sportifs, avant l'effort, pendant l'effort, et la récupération. Et là, il y a des choses importantes, par exemple, aussi pour abaisser le taux de cholestérol, ce qui marche le mieux maintenant, visiblement, c'est la spiruline. Ça vous dit quelque chose?
Oui.
Il y a 2 productions en Suisse romande. Dans le canton de Vaud, il y a une ferme de la spiruline. C'est une algue d'eau douce. Hein. C'est une algue d'eau douce. À Launay, près de Morges, il y a des gens qui produisent la spiruline. Et chez nous, en Valais, la spiruline est produite, vous savez où?
À
Saxon. Non, à Saxon. C'est les gens de Fuy.
Oui.
C'est les gens de Fuy. Ceux qui ont le magnifique bistrot, les Folterres, ou Folaterres, enfin là, il y a à Fuy. Ben, ils ont une magnifique ferme, enfin, ils en produisent. Et puis, bon, le problème, ils ont raison de le faire parce que la spiruline, bon, elle est très chère. Les gens critiquent. Ah ben, c'est les Valaisans ou les gens de Launay qui la vendent trop cher. La spiruline, 60% de la spiruline, production mondiale, c'est en Chine. Et la spiruline est une algue d'eau douce qui accumule les métaux lourds. Et il y a eu des problèmes extrêmement sérieux avec des gélules de spiruline que vous achetez en pharmacie, souvent, ou en droguerie, qui viennent, dont l'origine n'est pas connue, c'est la Chine. Alors, par exemple, ceux de Saxon, cette famille, on ne peut pas dire les noms, on va pas faire la réclame pour eux.
C'est
votre famille?
Non.
Ah, c'est pas votre famille. Oh. Non, ils prennent l'eau, ils prennent l'eau des Alpes, le chimiste cantonal, malaisant, ils contrôlent l'eau. Il y a vraiment l'absence totale de métaux lourds. Alors, l'autre jour, quelqu'un était chez moi, puis je montrais ça, il me dit, oui, mais moi j'achète en pharmacie un produit français. Et très bien. Puis ben, alors, c'est renseigné, finalement, le pharmacien s'est renseigné, le pharmacien de Martigny s'est renseigné, c'était la spiruline qui venait de Chine. Donc je n'ai pas confiance parce que les analyses métaux lourds, enfin moi ça ne me dit rien. Bon, il y a 1000 choses qu'on pourrait parler, oui.
J'allais vous demander par rapport à si on veut faire pousser des plantes chez nous, qu'on n'habite pas dans un milieu alpin très naturel, et justement, est-ce qu'il y a certaines plantes qu'on peut utiliser qui tirent justement des métaux lourds du sol ou des composants, des polluants, et il faut justement faire gaffe où on récolte, oui, pas au bord des routes et tout ça, mais par rapport à la qualité de la terre.
Ça, c'est clair. Hein. Ouais. Ça, c'est clair.
Et du coup, comment qu'est-ce que vous conseillez du coup? Il faudrait faire des analyses de terre ou être sûr de les planter dans un endroit où il n'y a pas de polluants. Enfin,
mais il faut voir, c'est pas. Bon, il y a mille choses de ce genre qu'on pourrait discuter. On discute peut-être. Parce qu'il y a un truc qui est dingue. On a trouvé une fois dans une plante africaine. Un antibiotique extrêmement puissant, qui est un des constituants de l'eau de montagne, a trouvé dans une plante. Et puis c'est un prof suisse qui a fait la publication. On peut même implanter cette plante partout. Des chercheurs allemands ont montré que cet antibiotique provenait du pipi d'animaux, enfin de vaches, on importe par tonne pratiquement de l'Inde où ça coûte rien pour la production, on donne ça aux animaux, enfin comme ça, et puis là où des animaux ont fait pipi, il y avait cet antibiotique qui est monté dans la plante, vous voyez. Alors c'est extrêmement complexe. Je ne peux pas répondre à la question, c'est beaucoup trop complexe. Bon, là on a fait le tour. Ouais. Je voudrais juste vous parler, après je vais vous laisser dans ma prendre le soleil. Je voudrais juste vous dire un mot sur la myrtille. Parce qu'il y a des choses assez nouvelles sur la myrtille, et ça pourra vous intéresser. Ça, c'est la myrtille de chez nous. Alors, le problème, cette myrtille-là, quand vous la mangez, vous avez les dents bleues. Les myrtilles que vous achetez dans le commerce, c'est ces grosses myrtilles ici, qu'on appelle les bleuets au Canada. Je ne sais pas si vous avez déjà coupé, moi j'en ai coupé souvent pour la télévision, parce qu'on va couper en deux, c'est blanc à l'intérieur. Donc, les pigments colorés, qui sont le principe actif de la myrtille, ici ne se trouvent que dans la peau. Les valeurs nutritives des deux myrtilles sont les mêmes. Si vous voulez, la teneur en sucre, en vitamines, etc., c'est la même. Mais il y a l'absence pratiquement totale, les pigments colorés ne sont que là. Donc, ces myrtilles-là ne peuvent pas prétendre aux qualités des autres myrtilles. Sauf pour les valeurs nutritives, c'est bien. Je ne critique pas, mais il n'y a pas la même chose. Maintenant, on va passer ici. Et la myrtille, bon, tout d'abord, reconnue par la pharmacopée européenne, la myrtille, les fruits séchés, sont antidiarrhéiques. Au lieu de prendre de l'imodium ou des trucs de ce genre, un gamin a une diarrhée, lui faire croquer des myrtilles séchées. Or, la myrtille fraîche, elle est légèrement laxative. Très très légèrement laxatif, quand vous la séchez, il y a une transformation des tanins ou de ces pigments colorés et elle devient vraiment anti-diarrhéique. On peut aussi faire des fruits séchés, on peut lutter contre les aphtes, faire une infusion, lutter contre les aphtes. Et maintenant, en usage interne encore, c'est très bon contre l'insuffisance veineuse, jambes lourdes. Il y a des médicaments à base de myrtille pour prendre des hémorroïdes. Et puis c'est connu depuis la Deuxième Guerre mondiale, la myrtille augmente l'acuité visuelle nocturne. Vous pouvez mieux voir la nuit quand vous prenez des jus de myrtille. Et ça, c'est démontré dans tous les livres d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Dès juin 1943, les alliés stationnés au sud de l'Angleterre, ils voulaient à cette époque-là ne pas faire trop de dégâts collatéraux. Ils bombardaient l'Allemagne nazie de nuit et les pilotes devaient toute la journée simplement manger ou boire des concentrés de jus de myrtille. On les amenait la nuit sur le tarmac, toute lumière éteinte. Ils décollaient, comme ça ils voyaient la nuit pour lâcher les bombes sur les objectifs stratégiques. Ça c'est connu, le mécanisme est connu, c'est archi connu. Donc ça augmente l'acuité visuelle nocturne, pas la diurne. Ça c'est documenté par de nombreuses publications.
Ça c'est une...
pardon, ça c'est oui. Les jus.
Pardon?
C'était des jus ou des fruits secs?
Ah, c'est égal. Vous pouvez prendre, vous pouvez prendre les jus, surtout des concentrés. Vous pouvez même prendre des gâteaux à la myrtille, parce que les anthocyanes, les pigments colorés, ne sont pas détruits par la chaleur.
Mais du coup, dans les jus, genre, c'est Biota, c'est ça? C'est Biota, là. Les marques de jus de fruits.
Biota, oui. C'est...
Biota.
Ah, ils ne sont pas bons.
Justement, donc quand vous parlez de jus...
Ah, ils ne sont pas bons.
Quand vous dites jus de fruits, c'est un jus de fruits qu'on a fait
oui.
Maison.
Bah oui, bah oui. Bah, le problème avec les jus, moi j'ai fait j'étais consultant pour l'émission à Bon Entendeur. Ouais. Et la dernière qu'ils ont tournée, c'était il y a 2 ans à peu près à Champé. Et bah, on a regardé, par exemple, le biota jus de myrtille. Il y a du thé dedans ou je sais pas quoi.
Oui, le thé blanc.
C'est toujours, ouais, c'est toujours dilué avec autre chose. Alors il y a des jus, enfin des marques, je sais pas lesquelles, vous avez, que le jus de fruits, que le jus de fruits, mais. Mais les biota, je trouve que ce n'est pas les meilleurs. Je le dis haut et fort, je l'ai dit à la télé.
Dans le commerce, on trouve des jus de myrtille
oui.
Qui auraient ces propriétés-là.
Bien sûr.
Okay.
Vous trouvez. Mm. Bon, le biota aussi, mais simplement, il faut en prendre plus parce qu'il est dilué.
Bien sûr.
Okay.
Dans l'utilisation antigaréique. Des baies séchées, c'est quel dosage, par exemple, qu'on pourrait utiliser
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. On va voir. D'accord. Bon, le jus de myrtille, pour améliorer la mémoire des personnes âgées, ils ont tout d'abord fait des études in vivo sur des souris. On a donné à des souris du jus de myrtille lyophilisé, donc c'est de la poudre de jus de myrtille, sonde gastrique dans l'estomac des souris pour être sûr qu'elles bouffent la quantité qu'on veut bien leur donner. Et puis, après 2 mois, on a testé l'intelligence, entre guillemets, des souris. Les tests pharmacologiques, c'est clair et net, on les met dans un labyrinthe. Ou dans des labyrinthes, on les affame un peu, ils ont envie de sortir, on met dans le même labyrinthe, par exemple, 10 souris qui ont reçu le jus de myrtille, 10 qui n'ont pas reçu, on les marque dans le dos, et puis on regarde, enfin. Et pour les attirer hors du labyrinthe, qu'est-ce qu'elles aiment, les souris? Bon, tout le monde dit le fromage.
La farine, chocolat.
Chocolat, c'est le meilleur truc. Il y a des études montrent. Les souris, si vous avez des souris dans votre cave, dans votre trappe, si vous voulez les tuer, vous mettez du chocolat. C'est le truc qu'elles aiment le mieux. Elles sont dingues. Les souris sont dingues de chocolat. Bon, ça c'est... Bon,
excusez-moi, j'ai encore une question pour les jus. C'est pasteurisé. Et si je fais du jus à la maison, et que je veux faire...
Oui, pas de problème.
Pasteurise, il n'y a pas de
problème. Zéro problème. Okay. Puisque ça résiste, vous pouvez faire des confitures de myrtille. Ouais. Et puis les manger, vous aurez un effet bon pour la mémoire.
Ouais.
Les principes actifs, ces pigments colorés, ne sont absolument pas détruits par la chaleur. Donc, confiture de myrtille, ça marche très très bien. Pasteurisé, évidemment, aussi.
Merci.
Bien. Alors... Après, ils ont fait une étude clinique avec des volontaires âgés de 70 ans, grosso modo, 2 décilitres de myrtille par jour pendant 2 mois. Et puis, j'ai laissé la conclusion, c'est une étude qui a été faite en Angleterre. The blueberry juice group showed significant improvement on learning memory tests pour les tests d'apprentissage et de mémoire. C'était clair et net, les gens qui avaient juste reçu le jus de myrtille se débrouiller nettement mieux. Ça, c'est des personnes âgées. Dans les EMS anglo-saxons, on donne à boire du jus de myrtille aux patients qui ont un début d'Alzheimer. Maintenant, si vous avez des enfants, un truc a été fait, une jolie étude a été faite pour augmenter l'attention et la concentration de l'enfant. Ça a été publié en 2017, pas trop longtemps, dans une très bonne revue, Food and Function, Royal Society of Chemistry. Ils ont pris 20 enfants, 7 à 10 ans, on leur a donné 30 grammes de myrtille lyophilisée, donc c'est des myrtilles dont on a enlevé l'eau, simplement pour avoir un placebo à donner. Alors, un groupe a reçu le placebo, et puis l'autre a reçu les myrtilles lyophilisées. Et le placebo était cette fois, pour une fois, un placebo intelligent. Ils ont créé le placebo en mettant tous les éléments nutritifs de la myrtille. Parce que 30 grammes de jus de myrtille lyophilisé, ils ont vu qu'il fallait mettre tant de glucose, tant de vitamine C, tant de fructose. Donc, vous aviez le même apport en nutriments dans la myrtille. Ce qui manquait dans le placebo, c'est les pigments colorés dont on sait qu'ils agissent sur la mémoire. Et puis, ils ont formé des étudiants en médecine, c'est dans une école de médecine. Et puis, 3 heures après l'ingestion, chaque élève avait son étudiant formé qui posait les mêmes questions au même moment. Donc, chacun, 40 personnes formées ou 20 personnes formées qui questionnaient les gamins. Exactement 3 heures après l'ingestion. Et puis là, vous voyez, c'est clair et net. Les réponses aux questions et les performances étaient nettement plus rapides chez les enfants qui avaient reçu la myrtille. Et c'était surtout, je crois qu'ils ont écrit à la fin, une supplémentation en myrtille peut contribuer à améliorer les performances scolaires chez les jeunes enfants. Et maintenant, à l'heure actuelle, aussi des étudiants qui doivent passer un examen, universitaire ou autre, manger des jus de myrtille avant l'examen, ou manger des myrtilles, ça peut aider. Et ça, c'est maintenant, il y a des dizaines de publications sur la myrtille qui vont dans ce sens-là. Puis après, maintenant, juste pour terminer un peu, une des meilleures plantes pour améliorer la mémoire qui existe maintenant, je n'ai pas de diapositive là-dessus, c'est le romarin. L'huile essentielle de romarin, les Grecs anciens, déjà, quand les gamins avaient de la peine à l'école, ils prenaient des brins de romarin frais, ils frottaient la tempe et le front, comme, vraiment comme ça. J'ai fait ça avec quelques étudiants du lycée de Genève, quand j'étais en activité encore, et puis on a déterminé, dans l'huile essentielle de romarin, ce qui nous intéresse, c'est une molécule qui s'appelle le 1,8-cinéol. Et d'ailleurs, quand vous allez en pharmacie, il existe 3 types différents d'huile essentielle de romarin. L'huile essentielle à cinéol, c'est celle qui est bonne pour la mémoire. Il y a de l'huile essentielle à verbenone, c'est bon pour la digestion, etc., ou pour les refroidissements. Et puis encore, l'huile essentielle de romarin à camphre, qu'on utilise uniquement en usage externe pour faire des massages quand on a des douleurs articulaires ou musculaires. Alors l'huile essentielle de romarin à cinéol, ben, c'est celle-là que les Grecs utilisaient. Et j'ai fait l'expérience, des étudiants se frottaient là, un quart d'heure après on a fait une prise de sang, et vous trouvez le cinéol déjà en assez grande quantité dans le plasma. Donc ça passe très très vite. Et après des Grecs, je passe à Shakespeare. Shakespeare a écrit Hamlet. To be or not to be, that's the question. Mais dans acte 4, scène 5, ou vice-versa, je ne suis pas sûr maintenant. Acte 4, scène 5, ou scène 5, acte 4, je ne sais plus. Shakespeare, il écrit, ou Ophélia, dans Hamlet, elle dit, there is rosemary, that's for remembrance. C'est le romarin pour se souvenir. Et il y a quelques années en arrière, l'université de Stratford-upon-Avon, là où il a vécu Shakespeare, ils ont fait une étude, ils ont pris des étudiants volontaires, 40, ils ont flanqué dans des cabines, ils ont diffusé de l'huile essentielle de romarin dans chaque cabine à des concentrations connues, à des taux d'exposition connus, afin de l'expérience prise de sang, détermination du taux plasmatique de 1,8-cinéol, puis ceux qui avaient un taux élevé en 1,8-cinéol, ils répondaient nettement mieux aux toutes les questions, par exemple, qu'on fait word recall, se rappeler des listes de mots, épeler à l'envers, toutes choses de ce genre. Et puis une étude a été faite aussi avec des gamins. On a mis 20 gamins dans une salle de classe à l'atmosphère neutre, et dans une autre salle de classe, on avait pratiquement saturé l'atmosphère avec des diffuseurs d'huile essentielle, romarin. Et puis c'était clair et net, l'huile essentielle de romarin est très très bonne pour la mémoire. Alors, par exemple, ils ont un diffuseur, moi chaque soir, l'hiver par exemple, pendant 1 heure, je diffuse de l'huile essentielle de romarin riche en cinéol, C'est pour ça que ma mémoire, malgré mon âge canonique, ne me lâche pas encore. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous voulez avoir tout ce PowerPoint, vous n'avez qu'à m'écrire, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez et comme vous voulez. Voilà, on va laisser.